Radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net.
Ah bah, je crois que vous n'êtes pas en train.
RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
L'Iran promet de venger la mort de son chef de la sécurité.
Khalil Arijani, tué dans une frappe israélienne. On vous fait son portrait dès le début de ce journal et puis on verra que les États-Unis s'interrogent. Pas sûr que sa mort et celle d'autres hauts responsables iraniens ne soient vraiment en mesure de menacer la survie du régime. Dans ce journal également, ce séisme sur la planète football. Le Sénégal déchu de son titre en Coupe d'Afrique des Nations après les incidents en finale contre le Maroc. On parlera aussi de Cuba qui prévient résistance indestructible face aux menaces d'intervention américaine. Et puis de la musique à la fin de cette édition avec du flamenco et du féminisme.
Les obsèques auront lieu ce matin à Téhéran.
Celle d'Ali Larijani, le puissant chef de la sécurité iranien. Les autorités l'ont confirmé. Il a bien été tué dans des frappes israéliennes menées dans la nuit de lundi à mardi. Alors que le nouveau guide suprême, Mojtaba Rahmenei, n'a toujours pas été vu en public depuis sa nomination, Ali Larijani se présentait ces derniers jours comme un chef de guerre, Henriane Verdier.
Ali Larijani était fils d'un éminent dignitaire chiite proche de l'ayatollah Khomeini. Ses trois frères ont eux aussi endossé des postes à haute responsabilité. Il a gravi les échelons dans différentes sphères du pouvoir. Après un doctorat en philosophie occidentale, il a servi durant la guerre Iran-Irak au sein des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Il a ensuite dirigé l'audiovisuel d'État, orchestrant ainsi la propagande comme la censure. Durant les années 2000, il s'est présenté en interlocuteur pragmatique lors des négociations sur le nucléaire. Il a d'ailleurs soutenu 10 ans plus tard l'accord historique conclu avec les grandes puissances. Après la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran en juin dernier, Ali Larijani a repris le poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, principal organe de décision en politique intérieure comme extérieure. Il est ainsi l'organisateur de la répression des manifestations anti-régime de janvier dernier, durant laquelle les forces de sécurité iraniennes ont tué entre 7 000 et 36 000 personnes. Sur la scène internationale, il était l'homme de l'ombre des négociations nucléaires indirectes entre Washington et Téhéran jusqu'à ce que les États-Unis choisissent d'attaquer. Depuis, il assurait le rôle de coordinateur entre les différents pouvoirs.
Le portrait d'Ali Larijani à retrouver sur RFI.fr.
Et l'armée israélienne promet maintenant de faire subir le même sort au nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei, dont le père a été tué au premier jour des frappes israélo-américaines.
Et la liste des hauts dirigeants iraniens éliminés s'allonge. Et aux États-Unis, les services de renseignement s'interrogent. Pas sûr que ça suffira, Vincent Sourio, à changer la structure de l'État en Iran.
C'est le Washington Post qui confirme les doutes de la communauté du renseignement aux États-Unis. D'après les sources du quotidien américain, ces doutes ont bel et bien été signifiés à Donald Trump avant qu'il ne s'engage dans ce conflit. Lors de plusieurs réunions préparatoires, le président américain avait été prévenu qu'une telle offensive renforcerait la détermination des gardiens de la révolution. Certes, d'après le journal, les cadres du régime iranien qui ont survécu jusqu'à ce jour sont désorientés, paranoïaques et ne parviennent pas à communiquer entre eux. Mais pour autant, les analystes consultés par le Washington Post ne décèlent pas de véritables fractures ou de défections majeures au sein de la structure du pouvoir. Au contraire, conclut l'un des interlocuteurs du quotidien, le régime s'est radicalisé, les répliques contre les pays du Golfe ont été accueillies comme une démonstration de force et les voix à l'intérieur de l'Iran qui plaident en faveur d'une solution diplomatique sont discréditées. Vincent Sourio, Washington RFI.
La voix de la diplomatie, ce n'est effectivement pas celle qui semble privilégié à Téhéran, où l'armée a dit vouloir venger la mort d'Ali Larijani. Deux personnes sont mortes cette nuit près de Tel Aviv. Il pourrait avoir été tué par la chute de fragments de missiles détruits par le système de défense de l'État hébreu. Et puis de fortes explosions tôt ce matin à Beyrouth, dans le centre de la capitale libanaise. Après, cette fois, un ordre d'évacuation de l'armée israélienne qui affirmait vouloir s'en prendre à un bâtiment lié au Hezbollah. 6 personnes sont mortes selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne a également commencé à bombarder la région de tir après là encore avoir appelé les habitants à évacuer, des ordres d'évacuation aussi à l'instant dans plusieurs autres zones du sud du Liban. Toutes les dernières informations sur la guerre sont à retrouver dans notre direct sur RFI.fr.
Une décision inique, sans précédent, inacceptable et qui jette le discrédit sur le foot africain. On l'aura compris, la fédération sénégalaise est en colère.
Les Lions de la Teranga se sont vus retirer hier soir leur titre en Coupe d'Afrique des Nations, remporté le 18 janvier dernier. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a tranché, saisi par le finaliste malheureux et pays organisateur de cette édition, le Maroc, qui est donc au passage proclamé vainqueur. Énorme rebondissement 2 mois après une finale, on s'en souvient, particulièrement chaotique, Eric Memrut.
L'équipe du Sénégal est déclarée forfait pour ce match. Telle est la ligne choc du communiqué du jury d'appel de la CAF tombé hier soir. Selon lui, l'équipe sénégalaise, à travers son comportement, a enfreint l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce fameux article qui précise qu'une équipe qui quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match est considérée comme perdante. En signe de protestation après le pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la finale, une grande partie de l'équipe sénégalaise avait en effet quitté la pelouse de Rabat, avant de revenir une dizaine de minutes plus tard pour assister au raté de Brahim Diaz, qui en transformant ce pénalty aurait offert le trophée au peuple marocain. C'est le Sénégal qui le soulèvera finalement après une victoire 1-0 acquise en prolongation. Le Maroc n'avait pas tardé à déposer une réclamation auprès de la CAF, un recours rejeté 10 jours plus tard par le jury disciplinaire de l'instance qui s'en tenait alors à des sanctions individuelles et des amendes. Pas de quoi décourager la fédération marocaine qui interjetait appel de cette décision. Et 6 semaines plus tard, voilà le Maroc récompensé avec un verdict le déclarant vainqueur qui vient totalement déjuger le premier. Un triste feuilleton qui est sans doute loin d'être terminé puisque le tribunal arbitral du sport sera très certainement saisi par la Fédération sénégalaise de football.
Et c'est effectivement ce qu'elle compte faire hein, dans les plus brefs délais, dit-elle, pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais. La Fédération marocaine elle aussi a réagi, disant prendre acte de la décision de la CAF et indiquant que sa volonté n'avait jamais été de contester la performance sportive des équipes mais uniquement de demander à l'application du règlement de la compétition.
Et sur cette décision du jury d'appel de la CAF, vous réagissez tout à l'heure sur notre antenne. Juan Gomez et toute l'équipe d'appel sur l'actualité vous attendent. Rendez-vous au 33 9 693 693 70.
La justice belge donne son feu vert. Un ex-diplomate du pays pourrait bien être jugé pour son implication dans les décisions ayant mené à l'assassinat du dirigeant congolais Patrice Lumumba en 1961. Il s'appelle Étienne Davignon. Il a aujourd'hui 93 ans. Il est le seul encore en vie parmi la dizaine de fonctionnaires, de policiers ou d'agents du renseignement belge visés par une plainte déposée par les enfants du défunt. Alors à l'époque, Étienne Davignon travaillait comme stagiaire au ministère belge des Affaires étrangères. Il est soupçonné de crimes de guerre, lui conteste les faits qui lui sont reprochés. Son avocat indique qu'ils ont 15 jours pour éventuellement contester cette décision en justice. Cette décision étant donc l'organisation du procès.
Tout agresseur extérieur se heurtera à une résistance indestructible, prévient le président cubain.
Oui, ton très martial pour Miguel Díaz-Canel, alors que son homologue américain Donald Trump menace de s'emparer de l'île communiste, même si le secrétaire d'État américain Marco Rubio dément que Washington chercherait à renverser le président cubain. Reste que Washington empêche toute livraison de pétrole vers l'île communiste. Malgré ça, des pourparlers sont en cours entre les deux pays et Cuba semble donner quelques signes d'ouverture de son économie, avec notamment cette annonce: la diaspora cubaine va pouvoir investir sur l'île et y détenir des entreprises. Insuffisant, répondent les Américains, et le conflit s'enlise. Agnieszka Kumor.
La nouvelle mesure venant de la Havane suscite scepticisme, estime Elias Amor, un économiste basé à Valence, interrogé par Aïda Palau. Et il rappelle 80% de l'économie cubaine repose sur un système centralisé par l'État.
Il ne suffit pas d'une publication au journal officiel pour déclencher un processus économique. C'est la grande erreur du castrisme. Les facteurs, les processus économiques apparaissent lorsqu'il y a un véritable espoir de profit. Si ce système n'est pas standardisé, je pense que les Cubains de l'étranger n'auront aucun intérêt à investir à Cuba.
La constitution cubaine actuelle interdit l'enrichissement du secteur privé et ne reconnaît pas le droit de propriété.
Ce que je recommande au gouvernement communiste cubain, c'est de promouvoir en priorité les investissements des Cubains résidant à Cuba. L'interdiction les concernant est bien réelle, car elle comporte des limitations à la fois économiques et juridiques. Par conséquent, je pense que l'annonce qui s'adresse à la diaspora relève de la démagogie qui caractérise actuellement les relations entre Cuba et les États-Unis.
Selon l'expert, seul un système démocratique garantissant les libertés pourra définir un cadre légal à l'investissement sur l'île.
La situation à Cuba, on y revient dans notre rendez-vous, la Fabrique du Monde, dans un peu moins d'une heure. Le procès se poursuit à la Cour d'assises de Paris.
Le premier procès dans le pays concernant des faits de génocide et crimes contre l'humanité à l'encontre de la minorité religieuse yézidi en Syrie. Le djihadiste français Sabri Yessid, présumé mort, est jugé par défaut. Hier, la Cour a notamment entendu le témoignage du président de l'ONG yézidi Kinyat, partie civile dans ce procès, compte rendu de Laura Martel.
Dès l'attaque en août 2014 de la région irakienne du Sinjar, centre de gravité de la communauté yézidi, Bazat Farhan se donne pour mission de collecter les preuves des exactions de l'EI. Lui et d'autres militants conservent documents officiels et propagande, mais surtout parviennent à infiltrer des groupes sur Telegram dans lesquels des combattants recherchent ou vendent des armes, des logements et des esclaves yézidis. Fille de 12 ans, poil pubien ayant commencé à pousser, très jolie pour prix spécial, peut-on par exemple y lire, ou « Frère, je ne plaisante pas, qui veut échanger une esclave contre une paire d'Adidas ?» Avec cette réponse, quelle pointure. Ces annonces, l'ONG les recoupe avec les témoignages de rescapés qui recherchent leurs proches. À partir d'une photo, un prénom, un nom de ville, le travail de fourmi des militants sur plusieurs années va permettre d'identifier et localiser plusieurs victimes. C'est ainsi que Bazat Farhan rencontre une femme qui lui parle de son geôlier français apparu dans une vidéo d'exécution. Bazat fouille ses archives, retrouve la vidéo, la femme identifie son bourreau et évoque une autre captive. C'est ainsi, en remontant le fil des témoignages, que Bazat Farhan va permettre l'identification de 5 victimes présumées de Sabri Yessid, dont 3 sont aujourd'hui parties civiles avec leurs enfants. Par le passé, les yézidis ont connu des persécutions qui n'ont pas été documentées, si ce n'est sous l'Empire ottoman, témoigne le militant. Il fallait cette fois garder des traces pour ancrer ce génocide dans l'histoire et que justice soit faite.
Alors à Martel.
On se quitte avec du flamenco qui n'est pas une affaire d'homme.
Mais c'est ce que nous montre Las Migas, un quartet espagnol 100% féminin dont l'album Flamencas vient de sortir en France. Une ode à la résistance féminine, Léa Boutin-Rivière.
La guitare, le violon, les voix et les claquements de mains sur le papier, tout y est. Flamencas est un disque qui respecte scrupuleusement les canons du genre. Pourtant, derrière cette élégante tenue traditionnelle de flamenco se cachent quelques transgressions. La première, Las Migas chante entre femmes et joue entre femmes. La seconde, les paroles des rythmes traditionnels, bulerias, tangos, seguiria, ont été modifiées pour évacuer les thèmes sexistes du flamenco. Alicia Griot, guitariste et chanteuse du groupe.
On aime beaucoup les flamencos traditionnels. mais on a besoin d'échanger quelques messages. Nous avons besoin de raconter une autre histoire.
C'est ainsi que l'on se retrouve avec des chansons comme Grito, véritable charge contre la misogynie déguisée en traditionnalisme, ou Celos, qui détourne le thème de la jalousie très présent dans le flamenco. Une petite révolution, voire une révolte, avec une exigence, jamais au détriment de la qualité de la musique.
Flamencas, le nouveau disque de Las Migas, ce sera notre choix musical du jour, juste avant le journal de 9h heure de Paris.
Et Léa Boutin-Rivière viendra en personne nous en parler. Merci Gaëtan. Et bienvenue à vous qui nous écoutez. RFI Matin, 6h13 à Paris, 5h13 à Dakar. On va revenir très largement ce matin sur la décision du jury d'appel de la CAF. 2 mois après la finale chaotique de la dernière CAN, c'est finalement le Maroc qui est proclamé vainqueur. La fédération sénégalaise va faire appel devant le TAS quand la marocaine, de son côté, prend acte. Analyse à suivre. On y revient aussi dans nos journaux des sports avec Babacar Diarra et avec le journaliste sportif Hervé Penaud. Lui parle de véritable séisme dans le foot africain. Vous l'entendrez dans une demi-heure et vous réagissez dans Appel sur l'actualité à 9h10. Ce matin, on vous dit aussi tout ce qu'il faut savoir de la guerre au Moyen-Orient lancée le 28 février, on le rappelle, par Israël et les États-Unis, l'Iran au lendemain de la mort de hauts cadres du régime, les nouvelles frappes ces dernières heures. Arnaud Pontus, votre invité à 7h20, et l'essayiste et documentariste Eddie Harris, vous revenez avec lui sur le regard porté par les Américains sur cette guerre.
Oui, il n'est ni spécialiste militaire ni géopolitologue, mais il a des choses à nous dire sur la guerre en cours et surtout sur la façon dont la mène Donald Trump. Eddie Harris est noir américain, né à Indianapolis, il a 70 ans. Il porte un regard sans concession sur l'Amérique et aujourd'hui il constate que l'opinion publique américaine est majoritairement contre la guerre en cours. Eddie Harris avec nous tout à l'heure.
A tout à l'heure, RFI Matin, vous avez une partie du programme, on commence.
RFI Matin.
Le Maroc, champion d'Afrique, victoire 3-0 sur tapis vert. Le jury d'appel de la CAF a donc tranché, la décision est tombée hier soir, un séisme après le chaos qu'a été cette finale de la CAN mi-janvier. L'instance a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale, pourtant remportée 1-0 après prolongation par les Lions de la Teranga, dont les joueurs avaient quitté le terrain pendant la rencontre après une décision de l'arbitre. Alors, comment comprendre?
C'est à toi que je parle, je te sais dans la foule, perdu mort dans tes larmes, pour ne pas qu'elles coulent. Entre lui et moi, il faudra choisir, entre toi et moi. J'ai envie de te dire que lui c'est personne, il cache bien son nom, moi son nom je te le donne. Il s'appelle Illusion, alors c'est pas mon histoire, mais vraiment la tienne. Une ombre dans le brouillard, je voudrais que tu reviennes. Tu verrais que chez nous, ça y est j'ai fait le ménage, je parle avec le loup, il m'écoute davantage. J'ai semé du silence pour que tu te reposes, je garde mes distances et t'attends avec des roses. Sur mes lèvres, viens lire, la promesse y est écrite, je pardonnerai le pire, mais que le meilleur s'en suive. Ça c'est pas de l'amour, alors c'est de la pure folie. Demain il fera jour, mais quelle est longue cette nuit. Je t'envoie un baiser, donne-lui une chance. Je voulais te dire, j'ai changé, refaisons connaissance. Je voulais te dire autre chose, on n'est pas couple ordinaire. Aime-moi si tu l'oses, à moins que tu préfères un miroir aux alouettes, toujours de ton côté, qui fait oui avec la tête, mais la garde baissée. Il te pousse au mensonge pour ne pas être mêlé au chagrin qui me ronge, qu'il devrait assumer. Je voulais te dire que je t'aime, malgré tout ce que je sais. Je voulais te dire que je t'aime, que le prix, je l'ai payé. Je voulais te dire que je t'aime, que le prix, je l'ai payé. Et que le prix, je l'ai payé. América sem norte. Ei! América sem norte. Guerra Nord-Sud. Americana é uma fonte de conhecimento do convívio ao crescimento no gueto guerreiro. Nova York, na loucura, cubano, jamaicano, brasileiro. E você, compre um carro blindado pra quando me ver não ficar assustado. América é o que estampa a camiseta na propaganda USA. Uma escopeta. L'Amérique sans le Nord, c'est l'Amérique sans l'Europe, sans la haine des colons, sans l'époque de leur faute. L'Amérique sans le Nord, c'est l'Amérique sans l'Europe, sans les corporations, les multinationales qui t'escortent. No continente da continência, clandestino na América. América sem norte, na luta, na resistência contra a indústria bélica. L'Amérique sans le Nord, c'est celle d'Amaruca, c'est la sagesse des peuples indiens, civilisation maya, Inca, Toltec, Aztec, c'est l'autre histoire de la planète, c'est sans Cabral, sans Colon et sans les Stets, c'est la protection des fleuves, des forêts, des autochtones, c'est sans l'ONU, sans l'OTAN, sans CIA et sans contrôle, c'est sans Monsanto et leur mafia agroalimentaire, c'est sans cancer, sans PCB, sans dioxine dans nos artères. América sem norte, a bélica da morte, no sul de Las Galas, do Alasca, o latino. Tem mais sorte, calma dá, pra manter-se vivo e não se matar. Mesmo perdido com os depressivos lá do Canadá. L'Amérique sans le Nord, c'est l'Amérique sans l'Espagne, sans Lisbonne, sans la France, sans la Hollande et Grande-Bretagne. C'est l'Amérique sans pollution, sans génocide économique, physique, écologique, politique, philosophique. C'est la protection de l'aquifère de Guarani, des tribus d'Amazonie, du peuple Xingu jusqu'à celui des Anahuininaoui. C'est l'équilibre sans le profit, l'opposition au monde des inutiles. No continente da continência, clandestino na América. América sem norte, na luta, na resistência contra a indústria bélica. América sem norte, quand le peuple a plus le choix, il foudroie les responsables de son état. América sem norte, au continent qui continue à résister dans le combat, le peuple vaincra. América sem norte, andanças pelo Havaí, ondas de mil milhas, surfei no Caribe e percebi como são grandes as Antilhas, Bahamas, que Deus me acuba na Jamaica, beleza, Belize, Honduras, duras foram as caminhadas até o topo de Nicarágua, Costa Rica, longe do Porto Rico pra lá do Mar das Caraíbas. Parei na Dominicana República, fui pedir ajuda dali, me deportaram pra uma ilha da Bermuda. Ils ont pris les terres
les Mapuches, des Émaras, des Quechuas. 500 ans de génocide pour construire leur espace. Plein de mensonges de béton, de pollution, d'antibiotiques. La culture occidentale n'a jamais sauvé l'Amérique.
Nous continuons, qui n'a continué. C'est clandestino en América. América, c'est moi. Na luta, na résistance contre la industrie bellica.
Le peuple n'a plus le choix, il foudroie les responsables de son état.
América c'est noir.
Au continent qui continue à résister dans le combat, le peuple vaincra.
América c'est noir. Sou sul-americano latino, e o que devo pago? Quero ir pro Rabisco, em Trinidad Tobago. É, o Haiti é aqui, São Caliente, Gueto, bairro, Panamá é aqui. Caliente, gueto, bairro, Guatemala é aqui. E são caliente, gueto, bairro, o Brasil é aqui, Haiti.
L'esprit qui guide c'est ici, ça se propage dans les baillots, l'histoire qui ressurgit, ça se propage dans les baillots, la médecine qui guérit, ça se propage dans les baillots, Africa assassin, c'est ici, c'est ici.